Bonjour, frères et sœurs. C'est un titre étonnant qu'on donne à Jésus dans le titre, dans le chant qu'on vient de chanter, le Père éternel. C'est tiré de Ésaïe, où il est annoncé qu'il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est vrai que Jésus agit envers nous comme un Père, un bon Père. Nos pères sur la terre ont de bonnes qualités, mais ils sont loin d'être comme le Seigneur Jésus qui nous protège, prend soin de nous, nous éduque. Nous élève, nous corrige parce qu'il nous aime. Et surtout, il a même donné sa vie. Il nous a servi au point de s'offrir un sacrifice pour que nous soyons des enfants de Dieu. Mais prions Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ce grand sacrifice. Notre Père céleste, tu as offert ton Fils pour que nous ayons la vie. Et comme promis, tu nous as envoyé ton Esprit et tu nous unis. Merci pour la foi que tu nous donnes. La foi que la Bible est ta parole, donne-nous une attitude de soumission, l'humilité pour reconnaître ta volonté et l'appliquer dans nos vies. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens, même les athées, qui pensent pouvoir compter sur Dieu quand ça va mal. Il y en a qui ne pensent pas à Dieu, mais tout à coup, quand l'épreuve frappe, ils se tournent vers Dieu. Ils se posent la question. Certains lui font des reproches, même si Dieu existe, pourquoi il permet ce mal? Ils font des reproches à un Dieu qui pense qu'il n'existe pas, c'est un peu étrange. Mais intuitivement, ils savent que si Dieu existe, il est forcément bon. Parce qu'on a juste à regarder la création qu'il a faite, la beauté de la création. Et Dieu ne peut qu'être bon. Et il nous accorde la vie, juste le souffle de vie, de pouvoir se réveiller le matin et vivre sur cette terre, de pouvoir manger, avoir un toit, des vêtements, boire de l'eau. C'est une grâce de Dieu. Dieu est bon. Et Dieu doit être miséricordieux. Mais on sait aussi que Dieu est juste. Intuitivement, on sait que Dieu est juste parce qu'on a en nous une soif de justice. Quand on entend parler qu'un criminel va en procès et que finalement, il n'a presque pas à payer de peine, il est épargné de la prison, il y en a plusieurs qui chialent, ils disent qu'il n'y a pas de justice. On a ce désir-là, cette soif de justice, et parfois on ferme les yeux sur notre propre culpabilité, mais on sait que lorsqu'on fait le mal, que nous aussi on mérite d'être punis. On a des remords. Ça provient de Dieu. Donc, on sait que Dieu est miséricordieux et qu'il est juste aussi. Comment réconcilier ces deux choses-là ensemble? Mais le passage qu'on étudie aujourd'hui souligne ces deux aspects-là. Dans l'Évangile de Jean, je vous invite à tourner, Évangile de Jean, chapitre 5. Donc, on étudie tout l'Évangile de Jean. On arrive au chapitre 5 aujourd'hui. On va l'étudier en deux parties. D'abord, la première partie qui montre une des facettes de la manière dont Dieu agit avec sa création, c'est sa miséricorde. C'est souligné dans la première partie, puis la deuxième partie, c'est sa justice qui est soulignée. Donc, lisons d'abord Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Jean 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et il se mit à marcher. Donc, ce paragraphe-là qu'on vient de lire souligne plusieurs choses, mais entre autres, la miséricorde de Dieu. L'événement se passe lors d'une fête juive, donc Jésus était en Galilée, et là il retourne à Jérusalem, et c'était des foules arrivées à Jérusalem. Donc c'est l'une des trois fêtes qui justifiait ce pèlerinage, soit la Pâque, la fête des moissons, ou la fête des huttes. Le texte ne le dit pas. Jésus arrive à l'une des portes, parce que Jérusalem était entourée d'une muraille reconstruite au temps de Néhémie. Et l'une des portes s'appelait la porte des brebis. Donc, c'était une porte où les brebis étaient menées à l'extérieur, littéralement. Les brebis étaient menés à l'extérieur pour les pâturages. Ils étaient menés à l'intérieur pour leur protection. Et c'est une belle illustration, hein? Souvent, dans l'Ancien Testament, Dieu est comparé à un berger qui prend soin de ses brebis. On a le psaume 23. Ici, cette porte des brebis rappelait cette protection de Dieu, cette bonté de Dieu qui offrait au peuple les pâturages où elle est broutée. Une belle illustration, un rappel continuel de la miséricorde de Dieu. C'est intéressant que Jésus lui-même, au chapitre 10, un passage qu'on connaît bien, Jésus va utiliser cette illustration-là pour dire « Je suis la porte des brebis ». Il dit « Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Donc, Jésus utilise cette illustration-là, ce symbole-là, de la porte des brebis, pour parler de la protection, de l'abondance qui est offerte par le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est bon, qui est miséricordieux. Il se trouvait là aussi un autre emblème de la miséricorde de Dieu, c'est la piscine appelée Bethesda. D'ailleurs, Bethesda veut dire « maison de miséricorde ». La miséricorde de Dieu, c'est la bonté qu'il offre dans sa grâce, sans que celui qui en bénéficie le mérite. Et même parfois, Dieu fait miséricorde à quelqu'un qui ne le mérite pas, comme accorder son pardon ou épargner quelqu'un de sa colère, alors que la personne n'est coupable. Donc, la miséricorde, c'est vraiment une grâce, une manifestation de la bonté de Dieu gracieuse. Mais cette piscine-là s'appelait la maison de miséricorde. Et elle avait une fonction spéciale régulièrement. Le texte dit certaines versions de la Bible ont ce passage-là, que régulièrement, un ange descendait et il agitait l'eau. C'était le signal pour que la première personne qui plonge dans l'eau puisse être guérie. Et si la croyance se perpétuait, c'est parce que, selon moi, ça arrivait. Le texte n'apparaît pas dans plusieurs versions de la Bible. Il faut savoir que dans beaucoup de manuscrits, parce que les Bibles qu'on a ont été traduites à partir de manuscrits en grec, et on doit comparer les milliers de manuscrits qu'on a à notre disposition. Il y en a qui sont plus fiables que d'autres, il y en a qui sont plus âgés. Et en les comparant, on arrive à la déduction de savoir si certains mots se trouvaient ou non. Il y a un exercice à faire, puis plusieurs commentateurs, plusieurs spécialistes des manuscrits sont arrivés à la conclusion que le verset avait été ajouté par la suite, qu'il ne se trouvait pas dans le texte original. Mais j'ai fait mes recherches, puis j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, puis moi je suis arrivé à la conclusion que ça se trouvait dans le texte original. En tout cas, c'est pas essentiel au passage, mais c'est quand même très utile. Sinon, quand on arrive au verset 7, où l'infirme explique pourquoi il ne peut pas être guéri, il dit « Quand l'eau est agitée, je n'ai pas le temps de me rendre, quelqu'un d'autre arrive avant moi. » Ça ne fait pas trop de sens si on n'a pas le verset 4. Pourquoi il dirait ça? Je pense que le verset 4 est essentiel. Et ce n'est pas si étranger au monde de l'Ancien Testament, où Dieu envoie ses anges pour exercer sa miséricorde pour son peuple. Et il le fait dans le Nouveau Testament aussi. Le Nouveau Testament dit que Dieu envoie ses anges comme des serviteurs pour son peuple. Et ses anges sont ses messagers, entre autres, pour porter sa miséricorde, sa bonté. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est qu'à cette piscine-là, c'était possible d'être guéri. Et ça montre la miséricorde de Dieu. Dieu intervient pour guérir quelqu'un. Et Jésus arrive à cette piscine-là, et lui-même, il démontre par son action la miséricorde divine. Parmi les nombreux malades, le texte dit qu'il y en avait une foule. Il y avait 5 portiques là, près de cette piscine-là. C'était un lieu là, où les malades allaient là, passer la journée. Ils attendaient de pouvoir être guéris. Donc, il y en avait une foule. Jésus en choisit un homme infirme. Et c'est un homme infirme depuis 38 ans. C'est long, 38 ans, là. C'est presque la moitié d'une vie. En tout cas, c'est une bonne partie de la vie d'un homme. Et le texte dit que Jésus savait que cet homme-là était malade depuis longtemps, sans même lui avoir parlé. C'est un autre petit détail là, que Jean ajoute souvent dans ses récits pour montrer que Jésus, ce n'est pas seulement un homme. C'est Dieu. Il a la toute connaissance, l'omniscience divine. Il connaît cet homme-là avant même de lui avoir parlé. Il connaît sa situation. Puis si Jean nous rapporte que cet homme-là était souffrant depuis 38 ans, au point d'être rendu infirme, il était couché. sur un lit. Il pouvait difficilement se déplacer. Il souffrait. Je pense que c'est pour attirer notre attention sur le sort triste de cet homme-là et faire naître notre compassion pour lui. On peut avoir pitié d'un homme qui souffre comme cela, qui est infirme, qui doit passer ces journées-là. Il ne peut plus travailler, donc il doit vivre par l'aumône, l'aide du peuple qui passe. Donc, sa situation est triste, puis je pense que c'est un indice pour montrer ce que Jésus lui-même a ressenti, la compassion pour cet homme-là. Donc, tout à coup, on peut se mettre dans les cellules de Jésus qui le voit, et la pitié, et la compassion. Il va le voir, il lui demande, « Veux-tu être guéri? » Dans la réponse de l'homme montre qu'il ne savait pas qui était Jésus. Parce qu'il ne comprend pas que Jésus est en train de lui offrir de le guérir. Lui, il répond tout simplement, « Ben oui, si je suis ici, c'est parce que je veux être guéri, mais je ne suis pas assez vite pour me rendre dans l'eau, là. Je suis impuissant. Il n'y a personne pour m'aider. » Puis Jésus, à ce moment-là, voit qu'il son problème, puis il lui déclare, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Puis l'homme retrouve la santé sur le champ. C'est plus fort même que ce qu'un ange aurait pu faire dans l'eau, là. La simple voix de Jésus, sa parole restaure l'homme et il retrouve la santé. Ça vient toucher dans ses cellules, là. Je ne sais pas c'était quoi la source de son infirmité, mais en un instant, par la simple voix puissante du Seigneur Jésus, il est transformé. On voit la puissance dans la voix de Jésus, on voit en fait sa toute-puissance. Non seulement il a toute la connaissance, mais il a la toute-puissance. Comme on l'a chanté tantôt, Jésus est Dieu. Et sa voix va à nouveau se faire connaître. C'est un passage qu'on va lire la semaine prochaine, mais on voit au verset 29, Jésus va parler avec les chefs religieux qui viennent le reprendre. Il dit, un jour, là, je vais revenir, le Fils de l'homme va revenir. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, la voix de Jésus. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc, sa voix s'est faite entendre sur la terre là, pour avertir, pour guérir. Un jour, il reviendra et le son de sa voix va faire en sorte que les morts vont ressusciter. Une voix qui rend la vie, c'est vraiment puissant. C'est la voix du Créateur. Ici, la guérison de cet homme-là, c'est en soi un acte de miséricorde. C'est une grâce qui est imméritée. Ce qui saute aux yeux quand on lit le passage, c'est que l'homme n'a absolument rien fait pour mériter d'être guéri. Il était un parmi un grand groupe. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la faveur de Jésus? Ben, rien. La décision de Jésus est vraiment basée sur sa propre volonté, sa propre miséricorde, sa décision seule. Et l'homme ne connaissait même pas qui était Jésus. Il ne pouvait pas avoir la foi en lui. Certains disent, c'est parce que Jésus a vu que cet homme avait la foi. Mais il pouvait avoir la foi en Jésus s'il ne le connaissait même pas. Il n'y a rien qui dit dans le texte que l'homme méritait quoi que ce soit. Il n'a pas eu à faire un acte de foi non plus pour être guéri. Jésus ne l'a pas mis au défi. Il l'a guéri alors qu'il était couché, puis il s'est levé et il a pris son lit. Donc l'homme était peut-être recroquevillé. Je ne sais pas c'est quoi son infirmité, mais là tout à coup, il a retrouvé ses forces, il s'est levé. Il a fait ce que Jésus lui a dit, il a pris son lit. Il n'a même pas eu à faire un acte de foi. Là. C'est vraiment une pure grâce là, de la part de Jésus. Ce miracle-là, c'est le troisième dans l'Évangile de Jean. Donc Jean nous dit que Jésus a fait une foule de miracles, mais il en sélectionne quelques-uns qu'il appelle des signes. Donc, c'est le troisième miracle qui est un signe et qui révèle l'un des aspects de Jésus, de son ministère, de sa personne, un des aspects de Dieu que Jésus est venu révéler. Et ici, il révèle vraiment la miséricorde, la grâce de Dieu. Dieu, dans son choix, dans sa souveraineté, élit des hommes et il les guérit. Il s'agit ici d'une guérison qui est strictement physique. On n'a pas d'indice que l'homme le statut de son âme a changé. Même, on va le voir dans la suite du récit, il n'est pas un très bel exemple à suivre, là, l'infirme qui a été guéri ici. Il ne montre aucune reconnaissance. Il prend son lit, il marche, puis il s'en va. Et il ne sait pas plus qui est celui qui l'a guéri. Donc, c'est une guérison qui était purement physique. Mais ça sert d'illustration, comme ici par contraste, pour montrer que la guérison que Dieu offre, elle est plus grande. C'est la guérison de notre âme. Et quand notre âme est guérie, ça a un changement sur notre attitude, forcément. Donc, à la différence de la guérison physique, celle de l'âme change notre attitude pour nous rendre obéissants, reconnaissants au Seigneur. Et on a le désir de le louer comme on l'a fait ce matin. On a le désir de s'assembler avec d'autres qui bénéficient de cette même grâce-là. Cette guérison-là de l'âme, elle est éternelle. L'infirme qui a été guéri de sa maladie, il a fini par mourir quand même. Ce n'était que temporaire, mais la guérison de l'âme que Dieu apporte, elle est éternelle. Mais il y a quand même une comparaison aussi. Comme la guérison de l'homme, la guérison spirituelle est un acte de pure miséricorde. Il faut constamment nous le rappeler, ça. On le sait, on a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais on peut l'oublier puis tomber dans le piège de penser qu'on l'a mérité. Que finalement, Dieu a vu d'avance qu'on était des bonnes personnes. Puis c'est pour ça qu'il nous a choisis. Donc, on peut s'élever puis tomber dans le piège de l'orgueil. Puis si on raisonne comme ça, ça va nuire même à notre mission qu'il nous a accordée de propager l'Évangile, de l'annoncer à tous. On va tomber dans le piège de penser qu'il y en a qui méritent d'être sauvés et d'autres qui ne le méritent pas. Mais nous, on ne sait pas qui Dieu va sauver. Mais ce n'est pas basé sur le mérite. On est sauvé par la grâce de Dieu seul, par sa miséricorde, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Un verset qu'on aime se rappeler, c'est Éphésiens 2:8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Heureusement que ce n'est pas par les œuvres. Sinon, on serait tous en train de se glorifier, là. Ça ne serait pas beau déjà qu'on le fait, là. Ce serait pas mal pire. Mais Dieu nous garde à notre place. Il veut que lui soit glorifié. On doit se le rappeler. C'est une pure miséricorde de la part de Dieu. Donc, c'est une belle illustration ici, le choix de Jésus de sauver cet homme infirme-là. Et après avoir manifesté la miséricorde divine, le texte souligne ensuite la justice de Dieu. Donc, lisons la suite, versets 10 à 18. Verset 10, toujours dans Jean 5. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « Hé, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. » Mais il leur répondit, « Mais celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Donc ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Et Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Donc, les chefs religieux voient l'homme qui marche avec son lit, un genre de lit de canne, un brancard, et puis là, ils s'en vont le trouver pour lui faire de sévères reproches. Mais en réalité, l'homme n'avait pas transgressé la loi. Quand on lit l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, Dieu avait interdit de travailler le jour du sabbat. Mais ce qu'il disait, c'est « Vous devez prendre un congé. » C'est comme un congé forcé, là. Congé national. Quelqu'un était menuisier, mais le septième jour, il devait arrêter de faire de la menuiserie. Quelqu'un travaillait dans les champs, le septième jour, il devait arrêter de travailler dans le champ. Donc, ça coûtait quelque chose, hein. Quand tu es agriculteur et tu es forcé de prendre une journée de congé, là, mais Dieu avait ordonné, ce jour-là, vous arrêtez votre occupation, vous prenez congé. Même ceux qui sont vos serviteurs, là, eux aussi prennent congé. Même vos animaux prennent congé, un congé forcé. Mais jamais Dieu a dit qu'il n'avait pas le droit de faire aucune activité, là, comme de transporter un objet. Mais les chefs religieux juifs ont ajouté, en plus de la loi, la tradition dans leurs commentaires. Ils avaient 39 catégories d'activités interdites. C'était des centaines et des centaines d'activités interdites. Qui existent encore aujourd'hui, les Juifs qui pratiquent cela religieusement, ont une foule d'interdits. Et je pense que si quelqu'un échappe à un objet à terre, il ne peut pas se pencher pour le ramasser. Donc ici, ce qu'il lui reproche à cet homme-là, c'est de transporter son lit. Il aurait fallu qu'il le laisse là. Au risque de se le faire voler. Mais ils étaient sévères, hein? Parce que la pression qu'ils exerçaient sur le peuple, et c'était à chaque semaine, c'est la pression pour respecter le sabbat, c'était le meilleur moyen pour eux de maintenir l'autorité, de maintenir leur pouvoir sur la nation. Et plus il y avait d'interdits, plus le peuple était dépendant d'eux pour savoir comment agir bien. Donc, ils étaient extrêmement légalistes. La loi devait être appliquée et c'était beaucoup plus important que de se soucier si ça plaisait à Dieu ou pas. C'était l'exercice de la loi parce que ça les gardait en position d'autorité. Et les conséquences étaient graves. Quelqu'un qui enfreignait la loi risquait d'être condamné et même lapidé. Donc l'homme avait peur ici. Ici, malgré la peur, on voit que son attitude n'est pas à suivre, n'est pas exemplaire. Il n'y a pas beaucoup de détails qui sont fournis, mais ici on voit, comme on l'a dit tantôt, aucun signe de reconnaissance pour celui qui l'a guéri. Il ne sait toujours pas qui est Jésus. Quand il s'est levé, là, il n'a même pas demandé à Jésus qui il était. Et quand les Juifs l'accusent pour avoir enfreint le sabbat, ils jettent le blâme sur Jésus. Ça fait penser à Adam qui dit « Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. » On l'a fait manger. Et il dit, c'est celui qui m'a guéri, là, qui m'a dit, prends mon lit de marché. Donc, il transfère, c'est comme s'il fait un effet miroir, là, il transfère l'attention sur Jésus. Et là, on voit toute la méchanceté dans le cœur de ces chefs religieux. Ils ne se soucient même pas de savoir comment ça se fait que l'homme est guéri. Ce qui les importe, c'est qui est celui, là, qui t'a dit de marcher? Qui est celui qui ose défier notre autorité? Là, ça vient les piquer là, dans leur orgueil. Ils cherchent à savoir qui est, mais Jésus s'est éclipsé à travers de la foule. Plus tard, Jésus rencontre l'homme dans le temple. Le texte dit qu'il le trouve. C'est régulièrement utilisé ce mot-là pour dire que c'est intentionnel. Donc, Jésus ne tombe pas par hasard devant lui, il le trouve. Là. Il va trouver l'homme. Puis, il lui dit... Maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri, maintenant, ne pêche plus. C'est un avertissement très solennel. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça laisse entendre que l'homme était malade à cause de son péché. En tout cas, c'est la conclusion, la déduction qu'on fait naturellement. Jésus lui dit, ne pêche plus. Tu étais malade. Si tu continues à pécher, il va t'arriver quelque chose de pire. Donc, Jésus lui rappelle la justice de Dieu. Il lui a fait bénéficier de sa miséricorde, mais il lui rappelle, même si Dieu est miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'il va t'épargner de sa justice. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, Jésus l'avertit des conséquences s'il persiste à vivre dans le péché. Ça amène une question qui est légitime, est-ce que toute maladie est la conséquence du péché? Bien, on peut dire globalement, oui. Il n'y aurait pas de maladie sur la terre s'il n'y avait pas de péché. Quand Dieu a créé le monde, il était parfait, et Adam et Ève n'auraient jamais été malades. Mais lorsque le péché a été introduit, lorsque Adam a péché, le monde a été corrompu, et toute maladie aujourd'hui est la conséquence globale du péché sur la terre. Si, quand nous sommes malades, c'est normal qu'on en déduise, bien, c'est à cause qu'il y a le péché. Mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est à cause de mon péché particulier? Le fait qu'une personne en particulier est malade, ce n'est pas forcément à cause d'un péché dans sa vie. Ça, la Bible est claire là-dessus. Donc, il faut se garder de conclure chez nos frères qui sont malades, quand on apprend qu'un frère est malade, une sœur, c'est parce qu'il a un péché dans sa vie. Ça arrive parfois, il y a des chrétiens qui vont... Ils vont pour consoler un frère qui vit une douleur et la première chose qu'ils lui disent, c'est « Confesse ton péché. Là. Qu'est-ce que tu as fait de mal? » Ce n'est pas très encourageant. Nous, on ne sait pas si nos frères, nos sœurs sont dans cette situation-là. On peut savoir pour nous-mêmes. C'est une bonne question à se poser. Mais il faut faire attention. Ne pas faire comme les amis de Job qui sont allés le consoler qui finalement se sont trouvés à l'accuser et à vouloir essayer de le convaincre que s'il vivait tous ces malheurs-là, c'est parce qu'il vivait dans le péché. Parce que Dieu le punissait. Il y en a même qui sont malades, comme Jésus dit, que Dieu permet cette maladie-là dans leur vie pour glorifier Dieu. Donc, au chapitre 9, Jésus va rencontrer un aveugle qui était aveugle dès sa naissance, un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Dieu avait décidé que cet homme-là allait être aveugle pour que sa gloire soit manifestée. Et elle l'a été à travers Jésus, qui est allé pour une intervention miséricordieuse. Mais c'est quand même possible qu'on soit malade à cause du péché. 1 Corinthiens 11 dit, « Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Les Corinthiens, malheureusement, il y en avait qui mangeaient, prenaient la table indignement. Ils péchaient contre leurs frères, contre Dieu. Et c'est pour cela, Paul dit, qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Dans Jacques 5, aussi, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, donc s'il est malade parce qu'il a commis des péchés, c'est lui qui le sait, là. Bien, il lui sera pardonné. Mais confessez vos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, c'est possible. La personne qui est malade le sait si elle vit dans le péché. Et je pense que c'était le cas de l'infirme ici. Selon l'exhortation de Jésus, il souffrait parce qu'il pratiquait un péché. Je ne sais pas lequel c'était, mais ça déplaisait à Dieu. Donc Jésus lui dit de se repentir. « Repens-toi, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. » Mais qu'est-ce qui peut être pire que d'avoir souffert pendant 38 ans? La mort? Mais même la mort, pour quelqu'un qui souffre, la mort est souvent vue comme un soulagement, une libération. Ce n'est pas quelque chose de pire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui demandent l'aide à mourir même. Qu'est-ce qui est pire? C'est après la mort. C'est le jugement dernier. Et c'est la conséquence du péché qui est la souffrance éternelle. Si on pense souffrir sur cette terre, c'est rien en comparaison à la souffrance éternelle. Des tourments terribles pour l'éternité. Comme si on brûlait dans un feu pour l'éternité, sans pouvoir avoir le secours de notre Père qui a détourné le regard pour toujours. Abandonné dans les flammes pour l'éternité. C'est ça le pire. Et Jésus va en parler plus loin, lorsqu'il dit que ceux qui auront fait le mal vont sortir, vont ressusciter pour le jugement. Donc, il va développer ça dans sa discussion plus loin. Et comme Jésus l'a souvent annoncé, tous les hommes doivent se repentir. Ce n'est pas seulement cet infirme-là parce qu'il vivait dans le péché, ce n'est pas seulement ceux que Dieu va frapper ou va corriger pendant leur vie sur terre. Tous ont à se repentir, sinon tous vont devoir faire face au jugement. Donc, ce qui attend quelqu'un qui néglige ou refuse de se repentir, c'est le jugement de Dieu. C'est l'enfer. Même si Dieu est miséricordieux, ça n'enlève pas cela, que chacun doit payer pour ses crimes en enfer. Et là, qu'est-ce que l'homme fait ici de cet avertissement solennel de Jésus? Est-ce qu'on le voit qu'il tombe sur son visage puis il se repent? Non, il court aller voir les chefs religieux et il dénonce Jésus. « Hey, celui qui m'a guéri, là, qui m'a dit de prendre mon lit, là, il est là-bas, là, c'est Jésus. » Son cœur, malheureusement, n'a pas changé. Je ne sais pas s'il a changé avant la fin de sa vie. C'est triste, mais il est l'exemple de quelqu'un qui a refusé de se repentir, même s'il avait bénéficié d'un secours divin. Et malheureusement, le fait que l'homme est allé dénoncer Jésus auprès des chefs religieux, ça a été l'événement déclencheur. Jean nous dit ici que ça a été le début de la persécution. Là, les chefs religieux qui étaient à Jérusalem, qui étaient réunis pour cet événement-là, là, ils ont vu Jésus comme leur ennemi, un homme à abattre. Puis ils se sont pris en haine contre lui. Ils ont voulu le tuer, d'abord parce qu'il osait les défier en violant le sabbat, leur sabbat, leur définition du sabbat. Et on remarque à partir du chapitre 5 ici, c'est le début d'une escalade. Là. Ça montre l'organisation contre Jésus, l'opposition contre Jésus, jusqu'à ce finalement signer son arrêt de mort puis trouver un moyen de le mettre à mort et le crucifier. Donc, ils viennent voir Jésus pour lui faire le reproche et Jésus leur répond par une déclaration très forte. Au verset 17, « Mon Père travaille jusqu'à présent. » Moi aussi, je travaille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Deux choses. Premièrement, ce n'est pas vrai que toute tâche, toute action, toute œuvre est mauvaise. La preuve, c'est que Dieu lui-même, après les 6 jours de création, le texte dit dans Genèse qu'il s'est reposé de son œuvre de création. Il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que ça veut dire qu'il est tombé inactif? Mais non. Il a continué de soutenir la création qu'il avait créée dans sa providence, dans sa miséricorde. Il continue de soutenir l'univers. S'il cessait un instant de soutenir l'univers, il n'existerait plus. Il continue dans sa miséricorde d'œuvrer pour le bien de ses créatures. Il continue de travailler et c'est bon. Et ça ne l'empêche pas de dire qu'il s'est reposé. Jésus dit ici, si Dieu fait cela, et que moi je fais une action de miséricorde, je fais la même chose que Dieu. Si ça avait été seulement le seul point que Jésus voulait apporter, peut-être que les Juifs auraient été prêts à débattre avec lui. Peut-être pas, là, mais ça aurait été un point de théologie. Mais là, Jésus ajoute une marque très forte qui pique la colère des Juifs encore plus, c'est qu'il appelle Dieu son Père. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Ça peut sembler anodin ici, mais c'est extrêmement important, cette déclaration-là. Il y en a certains qui s'opposent au christianisme et qui disent « Ah, Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. » Ça, c'est une déclaration très claire. Il dit « Dieu est mon Père. » Il n'y a aucun Juif à l'époque qui aurait osé dire ça. Et il pouvait dire « Dieu est notre Père céleste parce qu'il est notre Créateur. Il est le Père de la nation parce que c'est lui qui a créé la nation. » Mais personne n'aurait osé dire « Il est mon Père », comme s'il y avait une relation filiale, paternelle. Mais Jésus ose le dire parce que c'est la réalité. Et c'est dans le plus fort du sens. Là. Non seulement Dieu a permis qu'il naisse sur la terre dans le ventre de Marie, il l'a conçu par son esprit, il est comme son Père terrestre, mais il est son Père céleste parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile de Jean, ça ne fait aucun doute quand il est dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu le Fils dans la Trinité. Il est le Fils depuis toute éternité. Il est le Créateur. Il est celui qui travaille, qui tient l'univers. Ce que Dieu fait, le Fils le fait. Ce que le Père fait, le Fils le fait. Donc, il est le Fils éternel. Donc, quand Jésus annonçait la miséricorde, qu'il annonçait le jugement, il parlait au nom de Dieu, mais il parlait en tant que Dieu. Et là, les Juifs l'ont très bien compris. Même s'il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont donnés là, cette déclaration, les Juifs l'ont compris et ont voulu le tuer. Puis le texte dit qu'ils ont voulu le tuer non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi lui-même égal à Dieu. Donc, Jésus a déclaré qu'il est Dieu. Sans ambiguïté. Donc, Jésus a agi par miséricorde, c'était pour démontrer la miséricorde de Dieu. Il a annoncé la justice, c'était pour annoncer la justice de Dieu. Il a agi lui-même de manière parfaitement juste, les qualités de Dieu même. Donc, c'est vrai que Dieu, d'un côté, est miséricordieux. On est d'accord avec ceux qui disent cela. Il est bon pour le monde, il le protège. Même quand les hommes remplissent le monde de violence, même quand on entend des guerres, ça finit jamais. Même quand on entend parler d'une possibilité de paix, ça rééclate encore. Au Moyen-Orient, c'est terrible. C'est l'homme qui remplit le monde de guerre, de violence, d'injustice, mais Dieu protège quand même le monde. Ça ferait longtemps qu'on se serait autodétruit sinon. Dieu est bon. Et il veut protéger et guérir tous ceux qui le désirent. Et il peut le faire. Et ceux qui lui demandent parfois, même sans trop le connaître, peuvent bénéficier même de son secours. Donc, on peut intercéder pour nos proches, même ceux qui ne sont pas croyants. Et c'est possible que Dieu leur accorde ce qu'on demande. Il leur accorde la guérison, la protection, un travail, un enfant pour ceux qui veulent avoir des enfants. Dieu répond à nos demandes parce qu'il est bon, il est miséricordieux, même si ceux pour qui on fait cette demande-là ne méritent pas. Mais comme Jésus l'a rappelé, Dieu est aussi juste. Et sa miséricorde ne fait pas qu'il va tasser sa justice. Il est juste, il est parfaitement juste. Il patiente maintenant pour appliquer pleinement sa justice. Sa patience est une preuve de sa miséricorde, mais un jour, le jour du jugement s'en vient. Et la condamnation éternelle, qui est bien pire que toutes les souffrances qu'on pourrait connaître sur la terre, cette condamnation va être appliquée. On n'a pas à en douter. Mais dans sa miséricorde, il offre un moyen maintenant là, d'être épargné de ce jugement-là. Et le moyen, c'est la repentance. C'est ce que Jésus t'allait dire à l'homme. Arrête de pécher. C'est l'un des deux volets de la repentance. C'est le volet négatif, c'est qu'on doit cesser, renoncer à la vie de péché. Mais l'aspect positif de la repentance est aussi nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été saisis, qui ont reconnu qu'ils péchaient, puis se sentaient coupables, puis ils ont essayé de changer de vie par eux-mêmes. Ils ont échoué. Parce que livrés à nous-mêmes, on est incapable. On est esclave de ce péché-là. On a beau faire le ménage dans notre vie, le lendemain, il y a d'autres choses qui vont remplir la place, puis ça va revenir, de toute façon, on va retomber. Et Jésus dit même que notre condition peut être pire que celle d'avant, là, si on travaille par nos propres forces pour essayer d'arrêter de pécher. Mais Jésus, quand il a dit ça à l'homme infirme, arrête de pécher, il se trouvait devant lui, là. L'aspect positif de la repentance, c'est de se tourner vers Jésus. C'est d'aller à Jésus. Lui, il nous libère, on le voyait ce matin dans le cours, il nous libère de l'emprise du mal et il nous rend capables de changer de vie. La repentance, c'est de renoncer à notre ancienne vie pour se tourner vers Jésus qui devient notre sauveur et de suivre Jésus. Jésus efface nos péchés, guérit notre âme et nous rend obéissants et reconnaissants. Il nous sauve, il nous rachète. Donc, quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu autour de nous, on doit parler de sa bonté, bien sûr, parler de son amour, de sa miséricorde, et démontrer aux gens la miséricorde de Dieu par nos propres actions. Mais si on se limite à ça, on n'offre pas de solution au monde. On fait juste les rendre plus confortables. On rend des gens plus confortables pour entrer en enfer. Ça ne change pas leur destinée. On doit aussi parler de la justice de Dieu. La miséricorde de Dieu vient non seulement faire du bien, mais vient donner le plus grand bien qui soit, c'est d'être épargné de sa colère, d'être pardonné. Que la malédiction soit enlevée. Même si ça nous attire la persécution. Ce n'est pas un message qui plaît aux oreilles, là. On dit aux gens qu'ils risquent d'aller en enfer, que Dieu va juger. Et ça peut attiser même la haine. On peut s'attirer l'injustice sur nous. Mais Jésus a été le premier à subir cela. Il nous dit de suivre ses traces. Jésus a attiré la haine contre lui parce qu'il annonçait la justice, la repentance. Ça peut nous arriver, mais c'est extrêmement important. Notre message, ça doit être celui de Romains 2 qui dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Mais quand on comprend ça, ce message-là devient le plus précieux. C'est la bonne nouvelle. Ça paraît d'abord une mauvaise nouvelle, mais quand on sait qu'on peut être racheté, ça devient une bonne nouvelle et le sujet de nos louanges. On va conclure avec Apocalypse 15 qui dit « Il chante le cantique de Moïse » le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Amen.